Bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure dans la grande table d'été, nous parlerons de l'imagerie balsacienne. Juste avant de faire le portrait de Ralph Dutly. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction présenté par ce cher Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour chère Maëlys, bonjour à tous. C'est la rentrée politique à n'en pas douter. Multiplication des candidatures à gauche contre François Hollande après Benoît Hamon et Cécile Duflot la semaine dernière. Arnaud Montebourg s'est lancé hier depuis son fief de Frangy-en-Bresse. Et puis à droite, sentirait-on le vent tourner? On se posera la question avec Frédéric Seyss face aux nombreux nouveaux soutiens à Nicolas Sarkozy, candidat pourtant non encore déclaré. Des éleveurs de l'Ouest convergent aujourd'hui à Laval, en Mayenne, siège du numéro 1 mondial du lait. Ils s'en prennent à Lactalis, accusé de tirer les prix vers le bas. Un problème, mais sans doute pas le seul, nous dira Maxime Fayol. L'aboutissement de 5 mois de négociations entre médecins et assurance maladie. Hier, un troisième syndicat a donné son accord. La consultation chez le généraliste passera de 23 à 25 euros l'an prochain. Précision d'Aurélie Kiefer. Et puis c'est ce matin une première devant la Cour pénale internationale. La première fois qu'un homme comparé devant la justice pour destruction de biens culturels. Il s'agit des mausolées de Tombouctou au Mali à l'été 2012. Explication de Willy Moreau à la fin de cette édition. Avant la rentrée des classes, il y a toujours la rentrée politique, même si certains d'entre vous sont encore en vacances. La classe politique est comme ça, elle vient vous parler, vous séduire, occuper le terrain en cette fin du mois d'août, et c'est encore plus vrai dans une année présidentielle. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Ludovic.
Du service politique de France Culture, revenons avec vous d'abord sur ces candidatures à gauche qui se multiplient, signe que c'est bel et bien la rentrée. Benoît Hamon, Cécile Duflot, on en parlait la semaine dernière, et puis hier Arnaud Montebourg, terminé sa mission auprès de la chaîne de magasins Habitat. L'ancien ministre de l'économie veut être président et sortir celui qu'il a pourtant soutenu à la primaire de 2011, François Hollande.
Et c'est même une des spécificités de la campagne qui s'ouvre. Trois anciens ministres candidats contre le président qui les a nommés avec une ligne claire, tout sauf Hollande. C'est la constante dans les discours de Montebourg, d'Hamon, de Duflot. Déception, gâchis, occasion manquée. Bref, ce sont des candidatures d'opposition au sein même de la gauche à l'issue d'un quinquennat jugé unanimement par eux raté. Alors les calendriers entre les lignes politiques sont différents. Cécile Duflot veut fonder ce qu'elle appelle la République écologique, pas encore de programme, mais le regret que le quinquennat ait été davantage celui des bus Macron que de la COP21, la patronne des Verts doit encore se soumettre au suffrage de la primaire écologiste prévue en octobre. Arnaud Montebourg, lui, a choisi comme trame la contestation des institutions européennes. Il veut contourner les règles sur les déficits et sur la concurrence libre et non faussée, quitte à payer des amendes à Bruxelles. C'est ce qu'il a dit hier à Frangy-en-Bresse. Une ambiguïté tout de même, il n'a pas dit s'il se présentait à la primaire de gauche en janvier ou s'il allait directement au premier tour. Et puis Benoît Hamon sera lui parmi les candidats de la primaire. C'est fait, il insiste sur la lutte contre les inégalités, conteste la ligne sociale libérale du quinquennat. Il faut aussi ajouter parmi les candidats Marie-Noëlle Lienemann et Gérard Filoche, eux aussi issus de l'aile gauche, pardon. Alors, ces trois déclarations peuvent peser politiquement et arithmétiquement. Politiquement, en soulignant l'échec d'un président qui était pourtant élu sur le rassemblement, sur la synthèse des sensibilités et dont la candidature n'est même pas une évidence, y compris dans sa famille. Et puis, arithmétiquement, évidemment, car si un Montebourg est présent au premier tour face à François Hollande, le président sortant peut dire adieu à l'espoir de second tour. C'est d'ailleurs l'argument que les proches de François Hollande vont répéter à l'envi. Le risque d'un 21 avril bis, la surprise en moins cette fois-ci.
D'un mot, une réaction ce matin d'un proche de François Hollande, le ministre Jean-Marie Le Guen, regrette qu'Arnaud Montebourg ait pris le chemin de la radicalisation, de l'outrance, alors que ce qu'il pourrait apporter aurait plus de force s'il était capable de se mettre au service d'un combat collectif. Regardons à présent Frédéric Seyss à droite avec, on le sait, ces trois prochains mois tout entier tourné vers la primaire de la fin novembre du côté des Républicains. Sentirait-on le vent tourner? On peut se poser la question rien qu'en observant tous ces nouveaux soutiens à un candidat pourtant non encore déclaré, Nicolas Sarkozy.
Oui, plusieurs ralliements dévoilés ces dernières heures. Gérald Darmanin, le jeune espoir de la droite, maire de Tourcoing, Christian Jacob, le chiracocopéiste, et Christian Estrosi, le sarkozyste de longue date. Alors on est là dans la chorégraphie minutieusement orchestrée. Nicolas Sarkozy lance sa campagne jeudi à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. C'est la stratégie assumée depuis un an, laisser Alain Juppé s'épuiser, faire campagne tout seul à des niveaux très hauts dans les sondages qui, mécaniquement, ne peuvent que baisser et mettre le paquet pour cette rentrée pour dessiner une inversion de dynamique, un rebondissement dont les commentateurs sont friands. Sans doute chez Nicolas Sarkozy, le lointain et douloureux souvenir de l'épopée Balladur qu'il avait suivi aux premières loges en tant que porte-parole. Voilà donc pour le début de cette campagne présidentielle qui se dessine et qui pour la première fois est précédée d'une très longue pré-campagne. Primaire écologiste en octobre donc, primaire de droite en novembre, primaire de gauche en janvier, à tel point qu'on pourrait presque parler cette fois-ci d'une élection présidentielle à quatre tours.
Frédéric Seyss signe de plus qu'il s'agit bien de la rentrée. Les 38 ministres et secrétaires d'État du gouvernement Valls revenaient ce matin à la table du Conseil des ministres. Parmi les dossiers importants, comme à chaque fois en cette période, les derniers arbitrages pour le budget 2017, avec un possible geste fiscal, fait-on savoir, en direction des classes moyennes, à condition, dit-on, de disposer des marges de manœuvre budgétaires, ce qui n'est pas garanti vu les récentes prévisions de croissance revues à la baisse. Au-dessus de la mêlée, François Hollande réfléchit avec ses collègues italiens et allemands à la relance de l'Europe. Aussitôt après le Brexit, la décision britannique au mois de juin de quitter l'Union européenne, les trois dirigeants s'étaient déjà vus et maintenant, à quelques encablures d'un sommet européen extraordinaire le 16 septembre, retrouvailles cet après-midi pour Hollande, Merkel et Renzi sur une île méditerranéenne, mais pas n'importe laquelle, notre envoyé spécial en Italie, Antonino Gallofaro.
Une minuscule langue de terre de moins de 3 km de long au large de la Campanie, environ 600 habitants, l'île de Ventotene est pourtant un symbole de la construction européenne, symbole qu'a choisi Matteo Renzi pour accueillir Angela Merkel et François Hollande. Ensemble, dans l'après-midi, ils iront déposer une gerbe et se recueillir sur la tombe d'Altiero Spinelli, l'un des pères fondateurs de l'Europe. En 1941, alors emprisonné sur l'île par le régime fasciste, il rédige le manifeste de Ventotene pour une Europe libre et unie. C'est cette Europe que les trois leaders veulent relancer après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en juin dernier. Ils veulent renouer avec les citoyens. Pour cela, ils veulent approfondir trois thèmes, l'économie, la jeunesse et la sécurité. Cette dernière problématique s'incarne elle aussi en symbole. Matteo Renzi, Angela Merkel et François Hollande monteront en fin de journée à bord du porte-aéronef Garibaldi. Il s'agit du navire accueillant l'état-major de l'opération européenne Sophia, celle qui lutte contre le trafic de migrants et vient en aide aux naufragés en mer Méditerranée tentant de rejoindre l'Europe.
Antonino Gallofaro. En cette rentrée, l'agenda européen s'annonce chargé. Je vous donne quelques éléments. Ce jeudi d'abord, tout près de Paris, réunion des dirigeants européens sociaux-démocrates. Et puis François Hollande et Angela Merkel se retrouveront en fin de semaine prochaine à Évian, en Haute-Savoie. Et puis ce sommet européen, je vous en parlais, le 16 septembre, sommet européen extraordinaire à Bratislava. L'objectif affiché, rassurer et rassembler les Européens. Au chapitre économique et social, c'est une journée d'action pour les producteurs de lait en Mayenne, à Laval. En fin de journée, siège du numéro 1 mondial du lait, Lactalis, devant lequel des centaines d'éleveurs du Grand Ouest convergent pour protester contre un prix d'achat trop bas, à peine 25 centimes le litre. On va en parler, mais je vous propose d'entendre d'abord le porte-parole du groupe Lactalis, Michel Nallet.
Nous n'avons jamais eu l'idée de bloquer toute discussion avec nos organisations professionnelles et nos organisations de producteurs qui sont organisées autour de l'entreprise. Monsieur Belin, le président de la FNSEA, et Roquefeuille, président de la FNPL, ont écrit au président du groupe
Lactalis. Il propose une rencontre.
Oui, mais on ne peut pas à la fois guerroyer et faire un blocus devant les portes de l'entreprise et aussi demander une rencontre et qu'on se mette autour de la table. Donc que les choses se passent raisonnablement et bien entendu nous sommes prêts à discuter avec les organisations de producteurs qui sont les organisations responsables et avec lesquelles on travaille autour de l'entreprise.
Michel Nallet ce matin chez France Info. Les producteurs veulent un juste prix, 25 centimes le litre à peine, je vous le disais, il leur est impossible, disent-ils, de s'en sortir. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Les éleveurs accusent Lactalis de tirer les prix vers le bas, notamment par rapport à d'autres industriels, mais le problème majeur est-il à ce niveau-là?
Mais pas uniquement. En fait, ce conflit entre Lactalis et les éleveurs, c'est un peu voir le problème en fin de chaîne. Comprenez, Lactalis ne paye pas assez, les éleveurs se retournent contre celui qui paye. Mais pour comprendre cette crise, il faut prendre le problème un peu plus en amont. Fin 2014, le prix du litre est proche des 40 centimes, une somme à l'époque déjà insuffisante pour les éleveurs. Mais la situation s'envenime à partir d'avril 2015. C'est la fin des quotas laitiers, cela signifie tout simplement que les éleveurs européens peuvent produire autant de lait qu'ils le veulent. Résultat, l'offre devient très largement supérieure à la demande et conséquence mathématique, le prix du litre baisse de façon vertigineuse. Le problème, c'est que ce sont les autres pays européens qui se sont mis à produire plus et pas la France. Mais vu que les prix décidés par Lactalis sont en fonction d'un marché mondial, eh bien les éleveurs français se retrouvent à produire autant et à être payés presque deux fois moins. La solution sera donc de calculer le prix du lait sur le marché français, mais aussi que les consommateurs acceptent de payer le lait plus cher, car la grande distribution négocie les prix de manière serrée avec les industriels comme Lactalis, qui au final ne peuvent que tirer eux aussi les prix vers le bas. Et en bout de chaîne, eh bien, c'est toujours l'éleveur qui tire la langue.
Maxime Fayolle, un des refrains de la rentrée, même si la mélodie est déjà connue, les organisations patronales demandent toute une baisse de l'impôt sur les sociétés. Après le MEDEF et l'AFEP en juillet, c'est au tour de la CGPME. Dans un entretien aux Échos ce matin, son président François Asselin suggère de ramener cet impôt de 33 à 25% proche de la moyenne en zone euro. On attend la validation de la prochaine convention entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Prochaine étape après le oui de dimanche. Hier, un troisième syndicat après MG France et Le Bloc, la Fédération des médecins de France, a donné son accord, ce qui entraîne pour nous tous une hausse du prix de la consultation chez le généraliste, 25 euros à partir du 1er mai. Bonjour Aurélie Kiefer.
Bonjour.
C'est l'aboutissement de 5 mois de négociations et aujourd'hui encore, Aurélie, cette convention ne fait pas l'unanimité.
Non, même si les syndicats ont obtenu des avancées. Un signe de reconnaissance important pour les médecins généralistes, vous l'avez mentionné, c'est le passage de la consultation à 25 euros en une seule fois. Une consultation qui valorise l'expertise médicale. Plus le cas est complexe, plus la rémunération est élevée. On peut aussi citer l'aide de 50 000 euros pour s'installer dans des déserts médicaux ou encore le forfait structure qui doit aider les médecins à investir dans de nouveaux outils et à se décharger d'une partie de leurs tâches administratives. 53% des adhérents de la FMF ont approuvé la convention hier. On ne saute pas de joie, commente leur président Jean-Paul Hamon. Il estime que cette convention n'est pas structurante, mais il espère maintenant peser sur sa mise en œuvre. Au sein de la CSMF, premier syndicat de médecins, les débats sont vifs. Des éléments vont dans le bon sens, reconnaît le président Jean-Paul Ortiz, mais il juge la convention trop orientée idéologiquement. Il n'y trouve presque rien pour les médecins de secteur 2, secteur à honoraires libres. Les adhérents trancheront jeudi en Assemblée Générale. Vote jeudi également au syndicat des médecins libéraux. Le président Éric Henry a clairement appelé à voter contre. Et pour ceux qui hésiteraient encore, le SML propose sur son site un dossier intitulé « La convention pour les nuls ». Il y explique notamment que les médecins spécialistes, psychiatres, pédiatres et dermatologues en tête sont les grands perdants de la convention. Plus généralement, les médecins continuent de réclamer de meilleures conditions d'exercice, moins de temps dédié à l'administratif, plus de temps avec les patients ou avec les autres acteurs du système de santé pour une prise en charge moins cloisonnée.
Merci Aurélie Kiefer. Il s'agit du premier procès pour destruction de patrimoine culturel devant la Cour pénale internationale. Le prévenu, un djihadiste malien, le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, a plaidé coupable ce matin à l'ouverture de l'audience à La Haye, aux Pays-Bas. Il a demandé même pardon. Cette faute sera la première et la dernière, a-t-il dit. Il est accusé d'avoir dirigé des attaques contre 9 des mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahya. C'était au début de l'été 2012, Willy Moreau.
Oui, ces destructions constituent un crime de guerre et c'est une première. Jamais en droit international un homme n'a été poursuivi pour ces faits et pourtant ce crime est prévu depuis les conventions de Genève, c'est-à-dire depuis 1949. La Cour pénale internationale l'a également inscrit dans son statut. Condition requise, il faut prendre part intentionnellement à la destruction et les bâtiments détruits ne doivent pas être des objectifs militaires. Autrement dit, les hôpitaux ou les écoles rentrent aussi dans cette incrimination. Au vu de l'enquête, la CPI a donc décidé il y a un an de délivrer un mandat d'arrêt contre Al-Faki Al-Mahdi. Et cette incrimination est lourde de conséquences pour l'ancien chef de la brigade islamique des mœurs à Tombouctou. Karine Bonneau est responsable du bureau justice internationale à la Fédération internationale des droits de l'homme.
Les peines devant la CPI sont déterminées par le statut, donc ce sera maintenant au juge de déterminer la peine qui devra être appliquée. Ils peuvent condamner jusqu'à la perpétuité ou 30 ans. Ensuite, dans la mesure où M. Al-Mahdi plaide coupable et donc reconnaît sa responsabilité dans ses crimes, on peut imaginer que sa peine sera réduite, mais la peine sera de plusieurs années, certainement.
Alors l'histoire a déjà montré pendant des conflits armés la destruction intentionnelle de musées, de lieux de culte ou encore d'hôpitaux. Et finalement, il semblerait que cette mosquée et ses mausolées inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité constituent un vrai symbole pour les juges de la Cour pénale internationale. Mais difficile de dire si ce procès fera jurisprudence. Les autres membres d'ACMI qui ont participé à ces destructions n'ont pas fait l'objet pour l'instant de mandats d'arrêt. 120 procédures judiciaires antiterroristes ont été ouvertes au Mali, quasiment aucune n'a été suivie d'un procès. Seules deux sont encore en cours, mais elles concernent cette fois des crimes de viol, d'esclavage sexuel et de mariage forcé.
Willy Moreau, et pour ce premier procès pour destruction de patrimoine culturel, je vous renvoie en page d'accueil du site franceculture.fr. Vous retrouverez un dossier autour de ces mausolées de Tombouctou et ce procès devant la Cour pénale internationale. Et puis le décès la nuit dernière, à l'âge de 94 ans, de Toots Thielemans, surnommé le roi mondial de l'harmonica, musicien belge qui a accompagné les plus grands noms du jazz, d'Ella Fitzgerald à Charlie Parker, en passant par Bill Evans ou Gilberto Gil. Killer Joe par Toots Thielemans, décédé cette nuit à l'âge de 94 ans. La météo de ce lundi 22 août, du soleil et des températures de 22 à 27 degrés près de la Manche, au nord de la Seine et dans l'Est, 28 degrés à Paris, 26 à 31 partout ailleurs, la maximale 34 degrés dans les Landes. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.